Ivan Tourguéniev, premier amour. Les convives étaient partis depuis longtemps. La pendule avait sonné minuit et demi. Dans la chambre, ne restaient que le maître de la maison et ses deux amis, Sergueï Nikolaïvitch et Vladimir Petrovitch. Le maître sonna et ordonna d'enlever les restes du souper. Ainsi c'est décidé, dit-il en s'enfonçant plus profondément dans son fauteuil et en allumant un cigare. « Chacun de nous doit raconter l'histoire de son premier amour. C'est vous qui commencerez, Sergueï Nikolaïvitch. » Sergueï Nikolaïvitch, un homme rondelé, blond, au visage un peu bouffi, regarda le maître, puis leva les yeux au plafond. « Je n'ai pas eu de premier amour, dit-il enfin. « J'ai directement commencé par le second. »«
Comment cela ?»«
Tout simplement. J'avais 18 ans quand, pour la première fois, je fis la cour à une très gentille jeune fille. Mais je la fis comme si j'en avais déjà eu de l'expérience, et comme il m'arriva plus tard de la faire aux autres. À vrai dire, je ne fus amoureux que la première et dernière fois qu'à l'âge de 6 ans, de ma gnagna. Vous vous rendez compte que de cela il y a bien longtemps. Les détails de nos relations se sont effacés de ma mémoire. Et d'ailleurs, si je m'en souvenais, personne ne s'y intéresserait.
« Comment faire alors ? » dit le maître de la maison.
« Sur mon premier amour, moi non plus, je n'ai rien de bien intéressant à raconter. Je ne suis tombé amoureux de personne avant de faire la connaissance d'Anna Ivanovna, ma femme actuelle. » Et tout a marché pour nous comme sur des roulettes. Nos pères nous avaient fiancés d'avance, Anna et moi. Nous nous sommes plu très vite et nous nous sommes mariés sans beaucoup de délai. Voilà donc mon récit fait en 2 mots. Je vous avoue, messieurs, qu'en soulevant la question du premier amour à raconter, j'attendais quelque chose de vous, célibataire. Je ne dis pas vieux, mais je ne dis pas non plus absolument jeune.
« Ce sera peut-être vous, Vladimir Petrovitch, qui aurez quelque chose d'intéressant à nous dire à ce sujet. »«
Mon premier amour est en effet mêlé à des événements qui sortent de l'ordinaire, » répondit avec un peu d'hésitation Vladimir Petrovitch. Un homme d'une 40aine d'années, aux cheveux noirs grisonnants. « Ah !» firent d'une seule voix le maître de la maison et Sergueï Nikolaïvitch. « Tant mieux, racontez. » « Soit, ou plutôt non, je ne raconterai pas. Je ne suis pas un assez bon narrateur. Mon récit pourrait paraître sec et court, ou bien trop détaillé et faux. Mais si vous me le permettez, j'écrirai tout ce dont je me souviens de l'histoire promise et je vous la lirai. » Les amis se refusèrent d'abord à y consentir. Mais Vladimir Petrovitch tint bon. 15 jours après, ils se réunirent de nouveau et notre narrateur s'exécuta. Voici ce qu'il avait écrit. Chapitre 1. J'avais alors 16 ans. C'était pendant l'été de 1833. Je vivais à Moscou chez mes parents. Ils avaient loué une maison de campagne près du mur d'enceinte de Kalouga. Je me préparais à entrer à l'université, mais je travaillais peu et sans trop me presser. Personne n'entravait ma liberté. Je faisais ce que je voulais, surtout depuis que je m'étais séparé de mon gouverneur français, lequel ne pouvait s'habituer à l'idée qu'il était tombé comme une bombe en Russie. Et, l'exaspération sur le visage, il se roulait toute la journée sur le lit. Mon père me traitait avec une affabilité indifférente. Ma mère s'occupait fort peu de moi, quoiqu'elle n'eût pas d'autres enfants. D'autres soucis l'absorbaient. Mon père, un homme encore jeune et très beau, avait épousé ma mère par intérêt. Elle était de 10 années plus âgée que lui. Elle menait une vie assez triste. Elle était constamment inquiète, jalouse, irritée, mais jamais en présence de mon père. Elle le craignait beaucoup. Quant à lui,
froid et réservé, il se tenait à distance. Je n'ai jamais vu un homme aussi galamment calme, assuré et impérieux. Je n'oublierai jamais les premières semaines que je passais dans cette maison de campagne. Le temps était magnifique, nous y étions venus le 9 mai, juste le jour de Saint-Nicolas. Je me promenais tantôt dans notre jardin, tantôt de l'autre côté du mur d'enceinte. J'emportais avec moi quelques livres, le traité de Kaïdanov, entre autres, mais celui-là je l'ouvrais rarement. Je préférais me réciter tout haut à moi-même des vers que je savais par cœur. La sève bouillonnait en moi, et mon cœur languissait d'une façon douce et plaisamment romanesque. J'attendais, je ne sais quoi, je m'intimidais, je m'étonnais, et j'étais toujours sur le qui-vive. Mon imagination vagabondait et voltigeait rapidement autour des mêmes images, comme, à l'aube, les martinets autour du clocher. Je devenais rêveur, je m'attristais, je pleurais même, mais de la tristesse et des larmes qui m'inondaient, sous l'impression d'un vers musical ou de la beauté d'une soirée, sortait comme une fleur de printemps le sentiment joyeux d'une vie jeune et débordante. J'avais pour mon usage un petit cheval de selle. Je le sellais moi-même et je m'en allais seul au loin, en me lançant au galop, m'imaginant être un chevalier sur l'arène. Et que joyeusement le vent sifflait dans mes oreilles. Ou bien, tournant mon visage vers le ciel, j'enfermais sa lumière et son azur éclatant dans mon âme ouverte. Je me souviens qu'en ce temps, l'image d'une femme, le fantôme de l'amour, ne se dressait presque jamais dans mon esprit avec des contours bien définis. Mais dans tout ce que je pensais, dans tout ce que je ressentais, se cachait cependant un pressentiment à demi conscient et pudique de quelque chose d'inconnu, inexprimablement doux et féminin. Ce pressentiment, cette attente, pénétrait tout mon être. Il devenait mon souffle, il coulait dans toutes mes veines, dans chaque goutte de mon sang. Le sort voulut que bientôt il devint réalité. Notre villa se composait d'une maison seigneuriale construite en bois avec des colonnes et de deux pavillons bas. Le pavillon de gauche était occupé par une fabrique de papier peint. Plus d'une fois j'allais là pour regarder comment une dizaine de gamins, mal peignés et maigres, dans des tuniques sales, aux visages bouffis de buveurs, sautaient sur des leviers en bois qui pesaient sur des presses, et de cette façon, par le seul poids de leur corps malingre, imprimaient le dessin sur le papier. Le pavillon de droite, inoccupé, était alloué. Un jour, 3 semaines après le 9 mai, les volets des fenêtres de ce pavillon s'ouvrirent. Des visages de femmes apparurent. Une famille quelconque s'était installée là. Il me souvient que ce même jour, pendant le dîner, ma mère s'enquit au majordome de ce qu'étaient les nouveaux voisins. Et, ayant entendu le nom de la princesse Sazikine, elle dit d'abord, non sans un certain respect, « Ah, princesse !» Mais aussitôt elle ajouta, « Probablement sans fortune. » « Ils sont arrivés dans 3 fiacres !» remarqua avec déférence le majordome en présentant le plat. Ils n'ont pas de voiture et leurs meubles sont très ordinaires. « Oui, répondit ma mère, cependant ce sont toujours des gens convenables. » Mon père la regarda froidement et ne dit rien. En effet, la princesse Zasekine ne devait pas être bien riche. Le pavillon qu'elle avait loué était si vieux, si petit et si bas que des gens quelque peu aisés n'auraient jamais consenti à y loger. Du reste, je ne fis alors aucune attention à tout cela. Le titre de prince ne m'imposait pas. J'étais encore sous l'impression de la lecture récente des « Brigands » de Schiller. Chapitre 2. J'avais l'habitude d'errer chaque soir dans notre jardin à la recherche des corbeaux. J'avais contre ces oiseaux prudents, rapaces et malins, une véritable haine. Le jour dont je viens de parler, je me rendis, comme à l'ordinaire, dans le jardin. Et après avoir vainement inspecté toutes les allées, les corbeaux m'avaient probablement reconnu et croassé de loin. Je me rapprochai par hasard de la haie basse qui séparait notre terrain de l'étroite bande de terre formant le jardin du pavillon de droite. Je marchais la tête inclinée. Tout à coup, j'entendis des voix. Je regardais par-dessus la haie et je restai cloué sur place. Un étrange spectacle s'offrit à mes yeux. À quelques pas de moi, sur la clairière, parmi les framboisiers aux fruits encore verts, se tenait une grande et svelte jeune fille, vêtue d'une robe rose à raies et portant un fichu blanc sur la tête. Autour d'elle se pressaient quatre jeunes gens, et à tour de rôle, elle les frappait sur le front avec des fleurs grises, dont je ne connais pas le nom, mais qui sont souvent dans les mains des enfants. Ces fleurs forment de petits sacs et se déchirent avec bruit quand on les cogne contre un corps dur. Les jeunes gens se soumettaient si volontiers à cette opération, et dans les mouvements de la jeune fille, je la voyais de profil, il y avait un je ne sais quoi de si gracieux, d'impérieux, de caressant, de railleur et de charmant, que je faillis jeter un cri d'étonnement et de plaisir. Et j'aurais donné, je crois, tout au monde pour sentir, moi aussi, sur mon front, le choc de ses jolis doigts. Mon fusil glissa sur l'herbe. J'oubliais tout. Je dévorais du regard cette silhouette élégante, et le petit cou, et les jolies mains, et les cheveux blonds, légèrement défaits sous le foulard blanc, et cet œil intelligent à demi-clos, et ses cils, et la tendre joue qu'ils ombrageaient. « Jeune homme ! Jeune homme ! » dit tout à coup une voix auprès de moi. « Il est défendu de regarder ainsi les jeunes filles étrangères. » Je tressaillis et restai comme pétrifié. Près de moi, de l'autre côté de la haie, un homme, aux cheveux noirs coupés ras, se tenait et me regardait d'un air ironique. Au même moment, la jeune fille se tourna de mon côté. J'aperçus de grands yeux gris dans un visage mobile et animé. Et soudain, ce visage tout entier fut éclairé par le rire. Les dents blanches étincelèrent, les sourcils s'élevèrent d'une façon drôle. Je devins pourpre. Je relevai vivement mon fusil et, poursuivi par les rires retentissants, mais sans méchanceté, je me sauvai dans ma chambre. Je me jetai sur le lit en cachant mon visage dans mes mains. Mon cœur battait à se rompre dans ma poitrine. J'avais très honte et en même temps je me sentais heureux. Une émotion inconnue m'agitait. Après m'être reposé, j'arrangeai mes cheveux. Je brossai mes habits et je descendis pour le thé. L'image de la jeune fille se dressait toujours devant moi. Mon cœur ne battait plus si fort. Il se serrait comme sous une pression douce. « Qu'as-tu ? » me demanda tout à coup mon père. « Tu as tué un corbeau ?» J'allais lui raconter tout, mais je me retins et je ne souris qu'en moi-même. En me couchant le soir, je fis, je ne sais pas trop pourquoi, trois fois le tour de ma chambre à cloche-pied. Je pommadai mes cheveux et enfin je me mis au lit, où toute la nuit je dormis comme un mort. À l'aube, je me réveillai un instant, je soulevai la tête, je regardai autour de moi avec un transport et je me rendormis. Chapitre 3. Comment faire connaissance avec eux ? Telle fut à mon réveil ma première pensée. Avant le thé, je descendis dans le jardin, mais sans m'approcher trop près de la haie, et je ne vis personne. Après le thé, je passai plusieurs fois dans la rue devant la façade de nos voisins, et de loin, je jetai des coups d'œil furtifs vers leurs fenêtres. Il me sembla que son visage, à elle, était derrière le rideau, et effrayé, je m'éloignai au plus vite. « Cependant, il faut quand même faire connaissance, » pensai-je, en errant sans but à travers la plaine sablonneuse qui s'étendait jusqu'au pied du mur d'enceinte. « Mais comment ? Voilà la question. » Je repassais dans mon esprit les moindres détails de notre rencontre de la veille. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui se représentait le plus souvent, c'était son rire au moment où elle s'était moquée de moi. Et tandis que je m'agitais et combinais différents projets, le sort avait déjà travaillé en ma faveur. En mon absence, ma mère avait reçu de la nouvelle voisine une lettre sur papier gris fermée par un pain à cacheter brun, de ces pains qu'on emploie seulement dans les bureaux de poste ou pour les bouchons d'un vin bon marché. Dans cette lettre, écrite en langue incorrecte et d'une plume négligée, la princesse priait ma mère de lui accorder sa protection. Ma mère, au dire de la princesse, était en bonne relation avec des personnages importants dans les mains desquels se trouvait la destinée de la princesse et de ses enfants, et elle avait, paraît-il, de très importants procès qui dépendaient d'eux. « Je m'adresse à vous, écrivait-elle, comme une dame noble à une dame noble, et de plus, il m'est agréable de profiter de cette occasion. » En terminant, elle demandait à ma mère la permission de se présenter. Je trouvais ma mère de mauvaise humeur. Mon père n'était pas à la maison, et par conséquent, elle n'avait personne à qui demander conseil. Ne pas répondre à une dame noble, et encore à une princesse, était impossible. Mais elle ne savait pas non plus comment lui répondre. Lui écrire un billet en français lui semblait déplacé. Quant à l'orthographe russe, ma mère, à son tour, n'était pas bien forte. Elle s'en rendait compte et ne voulait pas se compromettre. Elle se réjouit de mon arrivée et m'ordonna d'aller aussitôt chez la princesse et de lui expliquer de vive voix qu'elle était toujours prête à être utile à son excellence et la priait de venir la voir vers 1 heure. L'accomplissement, aussi inattendu et aussi rapide de mes désirs les plus secrets, me réjouit et m'effraya à la fois. Cependant, je ne laissais pas voir mon trouble et je montai dans ma chambre pour mettre ma nouvelle cravate et mon veston. À la maison, je portais encore la veste courte et le grand col rabattu, quoique cela commençât à me déplaire. Chapitre 4. Dans le vestibule étroit et assez mal tenu du pavillon, où j'entrais avec un frémissement involontaire de tout mon être, un vieux domestique à cheveux gris vint à ma rencontre. Son visage basané avait une teinte cuivre. Ses yeux mornes étaient petits comme ceux d'un goré, et ses tempes et son front étaient marqués de rides si profondes que jamais je n'en ai vu ainsi. Il portait sur une assiette une carcasse dénudée d'un hareng, et de son pied, il ferma la porte de la pièce qu'il avait ouverte derrière lui. Il me demanda d'un ton bref « Que désirez-vous ? » « La princesse Zasekine est-elle chez elle ? » lui dis-je.
« Vonifati ! »
cria la voix tremblotante d'une femme à travers la porte. Le domestique me tourna le dos, et sur la partie qui le recouvrait, je remarquai l'usure de la livrée, n'ayant au bas des reins qu'un seul bouton de cuivre à couronne, roussi par l'oxydation. Il rentra dans la pièce en posant son assiette par terre.
« Es-tu allé à la ville ?»
répéta la même voix de femme. Le domestique murmura quelque chose.
« Hein ? Quelqu'un est venu ?»
fit la même voix.
« Le fils des voisins ? Eh bien, fais entrer !»
« Entrez dans le salon, » dit le domestique, qui apparut de nouveau devant moi en relevant l'assiette par terre. D'un petit coup, rapidement, je rajustai ma veste et j'entrai dans le salon. Je me trouvai dans une petite chambre, tout juste propre, avec un pauvre ameublement disposé comme à la hâte. Près de la fenêtre, dans un fauteuil à un bras cassé, était assise une femme d'une cinquantaine d'années, en cheveux, laide, vêtue d'une vieille robe verte et un fichu de laine bigarré autour du cou. Ses petits yeux noirs semblaient vouloir me transpercer. Je m'avançai et je saluai.
Est-ce à madame la princesse Zazikine que j'ai l'honneur de parler ?
Je suis la princesse Zazikine. Et vous, vous êtes le fils de monsieur V ?
Parfaitement. Je suis venue chez vous de la part de ma mère.
Asseyez-vous, je vous en prie. Vonifati, où sont mes clés ? Tu ne les as pas vues ?
Je communiquai à madame Zazikine la réponse de ma mère à son billet. Elle m'écouta en tapotant de ses gros doigts rouges sur la vitre. Et quand j'eus fini, elle fixa de nouveau ses yeux sur moi.
« Très bien, j'irai certainement, » fit-elle enfin.
« Mais comme vous êtes encore jeune, quel âge avez-vous ? Permettez-moi de vous le demander. »«
16 ans, » répondis-je, non sans un peu d'hésitation. La princesse retira de sa poche des papiers graisseux, couverts d'une fine écriture, les porta à son nez et se mit à les examiner.
« C'est un bon âge, » dit-elle tout à coup en s'agitant sur son siège.
« Quant à vous, je vous en prie, soyez sans cérémonie. Chez nous, tout est simple. »«
Trop simple, » pensai-je, en jetant, avec un dégoût involontaire, un regard sur toute la personne négligée de la princesse. À ce moment, une autre porte du salon s'ouvrit vivement, et sur le seuil, apparut la jeune fille que j'avais vue la veille au jardin. Elle fit un geste de la main et sur son visage passa un sourire.
« Et voilà ma fille, » dit la princesse en la désignant du coude.
« Zinotchka, c'est le fils de notre voisin, monsieur V. Quel est votre petit nom, s'il vous plaît ?»«
Vladimir, » répondis-je en me levant et en baissant la voix d'émotion.
« Et d'après votre père ?»«
Petrovitch. »«
Vraiment ? Eh bien, j'ai connu un haut fonctionnaire de la police qui s'appelait aussi Vladimir Petrovitch. »«
Vonifati, ne cherche plus les clés, elles sont dans ma poche. »
La jeune fille continuait à me regarder avec le même sourire, les yeux à demi fermés et la tête légèrement inclinée sur le côté.
« J'ai déjà vu monsieur Valdemar. » fit-elle.
Le son argentin de sa voix me courut dans tout le corps comme une douce fraîcheur.
« Vous me permettez de vous appeler ainsi ?»«
Mais comment donc ? » murmurai-je.
« Où as-tu déjà vu monsieur ? » demanda la princesse.
La jeune fille ne répondit pas.
« Êtes-vous pressée en ce moment ? » demanda-t-elle sans me quitter des yeux.
« Nullement. »
« Voulez-vous m'aider à dévider de la laine ? Venez avec moi dans ma chambre. »
Elle me fit une nouvelle invitation de la tête et sortit du salon. Je la suivis. Dans la chambre où nous entrâmes, les meubles étaient rangés avec plus de goût que dans le salon. D'ailleurs, en ce moment, je n'étais à même de rien examiner. Je marchais comme dans un rêve, plein d'une félicité qui allait jusqu'à me rendre stupide.
La jeune princesse s'assit, prit un écheveau de laine rouge et, en me désignant une chaise devant elle, dénoua la laine avec soin et me la mit sur les mains. Elle fit tout cela silencieusement, avec une lenteur amusante et le même sourire, à la fois serein et malicieux, sur ses lèvres légèrement entrouvertes. Quand ses yeux, presque constamment à demi fermés, s'ouvraient de toute leur grandeur, son visage changeait complètement. On aurait dit qu'un rayon illuminait cette physionomie.
« Qu'avez-vous pensé de moi hier, monsieur Valdemar ? »
demanda-t-elle après un silence. « Vous m'avez probablement mal jugé. »«
Moi, princesse, je n'ai rien pensé. Comment pourrais-je ? »
répondis-je tout confus.
« Écoutez, » reprit-elle. Vous ne me connaissez pas encore. Je suis très étrange. Je veux qu'on me dise toujours la vérité. Je viens d'apprendre que vous avez 16 ans. Moi, j'en ai 21.
Vous voyez que je suis beaucoup plus âgée que vous. Et par conséquent, vous devez me dire toujours la vérité.
Et m'obéir,
ajouta-t-elle. Regardez-moi. Pourquoi ne me regardez-vous pas ? Je me troublais encore davantage, mais je levai quand même mes yeux sur elle. Elle sourit, non pas comme auparavant, mais d'un sourire approbatif.
« Regardez-moi, » dit-elle d'une voix tendre et basse, « cela ne m'est nullement désagréable. Votre visage me plaît. J'ai le pressentiment que nous serons amis.
Et moi, est-ce que je vous plais ? » ajouta-t-elle malicieusement.
« Princesse, » allais-je commencer.
« D'abord, appelez-moi Zinaïda Alexandrovna. Ensuite, suivant l'habitude des enfants, des jeunes gens, je veux dire, n'essayez pas de cacher ce que vous ressentez. Laissez cela aux grandes personnes.
Je vous plais, n'est-ce pas ? »
Quoiqu'il me fût très agréable qu'elle me parlât si franchement, je me sentis comme un peu offensée. Je voulais lui prouver qu'elle n'avait pas affaire à un gamin. Et, prenant autant que possible un air sérieux et d'aplomb, je lui dis « Certes, vous me plaisez beaucoup, Zinaïda Alexandrovna, je ne vous le cache pas. » Lentement, elle hocha la tête avec un semblant d'ironie.
« Vous avez un gouverneur, n'est-ce pas ? »
demanda-t-elle tout à coup.
« Non, il y a longtemps que je n'ai plus de gouverneur. »
Je mentais. Il n'y avait qu'un mois que je m'étais séparée de mon français.
« Oh, mais vous êtes un grand, je vois !»
Elle tapa légèrement sur mes doigts.
« Tenez bien vos mains !»
Et elle se remit à pelotonner avec ardeur. Je profitai de ce qu'elle ne levait pas les yeux pour l'examiner d'abord furtivement, puis avec plus de hardiesse. Son visage m'apparut encore plus charmant que la veille. Tout en elle était si fin, si intelligent et si attrayant. Elle était assise le dos tourné à la fenêtre, que voilait un store blanc. Le rayon de soleil, qui pénétrait à travers l'étoffe, inondait d'une lumière douce ses cheveux d'un blond doré, son cou virginal, ses épaules tombantes et le calme de son buste gracieux. Je la regardais, et combien elle me devenait chère et intime. Il me semblait que je la connaissais déjà depuis longtemps, et qu'auparavant, je n'avais pas encore vécu et n'avais rien connu. Elle était vêtue d'une robe sombre, défraîchie, recouverte d'un tablier. J'aurais volontiers baisé chaque pli de cette robe et de ce tablier. Le bout de ses bottines regardait de dessous la jupe. Je me serais inclinée avec adoration devant ses bottines.
Et voilà que je suis assis devant elle, pensais-je. J'ai fait sa connaissance. Quel bonheur, mon Dieu!
Je faillis sursauter de transport sur ma chaise, mais je ne fis qu'agiter les jambes comme un enfant qui goûte quelque chose de bon. Je me sentais heureux comme le poisson dans l'eau, et de tout un siècle, je n'aurais pas quitté ma place, je ne serais pas sorti de cette chambre. Ses paupières se levèrent doucement, et de nouveau, luirent devant moi ses yeux limpides. Et de nouveau, elle sourit.
« Comme vous me regardez !» dit-elle lentement.
Et elle me menaçait de son doigt. Je rougis.
« Elle comprend tout ! Elle voit tout !» pensais-je.
« Et comment ne comprendrait-elle pas et ne verrait-elle pas tout ?» Soudain, une rumeur se fit entendre dans la chambre voisine. Un bruit de sabre retentit.
« Zina !»
cria du salon la princesse.
« Belov Zorov t'apporte un petit chat !»«
Un petit chat ?» s'écria Zinaïda. Et, se levant vivement de sa chaise, elle jeta le peloton sur mes genoux et s'enfuit. Je me levai également, et, déposant le peloton et les chevaux sur l'appui de la fenêtre, j'entrai dans le salon et je m'arrêtai stupéfait. Au milieu de la chambre étaient étendues les pattes allongées, un petit chat rayé. Zinaïda était devant lui, à genoux, et soulevait doucement son petit museau. Plus loin, auprès de la princesse, et couvrant presque toute la partie du mur entre les deux fenêtres, se tenait un gaillard, blond et frisé, un hussard au visage rose et aux yeux à fleur de tête.
« Qu'il est drôle !» répétait Zinaïda. « Et ses yeux qui ne sont pas gris, mais verts, et ses oreilles qui sont si grandes. Merci, Victor Igoritch, vous êtes charmant !»
Le hussard, dans lequel je reconnus l'un des jeunes gens que j'avais vu la veille, sourit et s'inclina en faisant résonner ses éperons et les anneaux de son sabre.
« Vous avez daigné dire hier que vous désiriez avoir un chat rayé avec de grandes oreilles.
Je me le suis procuré. Votre parole, c'est la loi. » Et il s'inclina de nouveau.
Le jeune chat miaula faiblement et se mit à flairer le parquet.
« Il a faim !» s'écria Zinaïda. « Vonifati, Sonia, apportez du lait !»
La femme de chambre, dans une vieille robe jaune, avec un foulard d'étain sur le cou, entra en portant une soucoupe pleine de lait qu'elle déposa devant le chat. La petite bête tressaillit et se mit à laper.
« Que sa langue est rose !» remarqua Zinaïda, en penchant sa tête presque jusqu'à terre et en regardant l'animal sous le nez.
Le chat, une fois rassasié, se mit à ronronner et à minauder de ses petites pattes. Zinaïda se leva et, s'adressant à la femme de chambre, lui dit avec indifférence « Emporte-le !»«
Votre petite main pour le chat !» dit le hussard en montrant toutes ses dents dans un sourire et avec des dandinements de tout son torse robuste que sanglait un uniforme neuf.
« Les deux !»
répondit Zinaïda en lui tendant ses mains. Pendant qu'il les embrassait, elle me regardait par-dessus l'épaule. Je demeurais immobile à ma place, et je ne savais si je devais rire, dire quelque chose ou garder le silence. Tout à coup, par la porte entrouverte du vestibule, j'aperçus la silhouette de notre laquais Fédor. Il me faisait des signes. J'allais machinalement vers lui.
« Que veux-tu ? » lui demandai-je.
« Votre mère vous a envoyé chercher, » me dit-il à voix basse. « Madame est fâchée que vous ne lui ayez pas encore rapporté la réponse. »«
Mais y a-t-il donc si longtemps que je suis ici ?»«
Plus d'une heure !»«
Plus d'une heure !» me répétai-je.
Et revenant dans le salon, je commençai à faire mes salutations.
« Où allez-vous ? »
demanda Zinaïda en me regardant par-dessus le hussard.
« Je suis forcée de rentrer. Alors je dirais, »
continuai-je en m'adressant à la vieille princesse, « que vous viendrez nous voir vers une heure. »«
C'est cela, petit père. »
La princesse prit vivement du tabac dans sa tabatière et prisa avec tant de bruit que j'en tressautais.
« C'est cela, »
répéta-t-elle en clignant ses yeux larmoyants et avec une petite toux géniarde. Je saluai de nouveau, je tournai sur mes talons et je sortis de la chambre avec ce sentiment de malaise dans le dos qu'éprouve un très jeune homme quand il sait que derrière lui des regards le suivent.
« Ainsi c'est convenu, monsieur Valdemar, n'oubliez pas de venir nous voir !»
cria Zinaïda, toujours en riant.
« Pourquoi rit-elle toujours ? »
pensai-je en revenant vers la maison, accompagné de Fédor, qui ne me disait rien, mais qui me suivait d'un air de désapprobation. Ma mère me gronda et s'étonna de ce que j'avais pu rester si longtemps chez cette princesse. Je ne lui répondis rien et je me retirai dans ma chambre. Une tristesse m'envahit tout à coup. Je me retenais pour ne pas pleurer. J'étais jaloux du hussard.
Chapitre 5. Comme elle l'avait promis, la princesse vint nous rendre visite et ne plut pas à ma mère. Je n'assistai pas à leur entrevue, mais à table, ma mère racontait à mon père que cette princesse Zazekine lui semblait une femme très vulgaire, qu'elle l'avait ennuyée avec ses prières pour intercéder en sa faveur auprès du prince Sergueï, et qu'elle avait sans cesse des procès, de vilaines affaires d'argent, qu'elle devait être une grande intrigante.
Ma mère ajouta cependant qu'elle l'avait invité à dîner pour le lendemain, elle et sa fille. En entendant les mots « sa fille », je plongeais mon nez dans mon assiette. Car enfin, elle était une voisine et elle portait un titre. À cela, mon père déclara qu'il se souvenait maintenant de ce qu'était cette dame. Dans sa jeunesse, il avait connu le défunt prince Zazikin, un homme d'excellente éducation, mais un homme vide et léger, qu'on l'appelait dans le monde le Parisien parce qu'il avait habité longtemps Paris. Il était très riche, mais il avait perdu toute sa fortune au jeu. Puis, on ne sait pas pourquoi, peut-être est-ce l'argent qu'il avait tenté, quoi qu'il eût pu mieux choisir, ajouta mon père avec un sourire froid. Il épousa la fille d'un certain petit fonctionnaire, et après le mariage, il se mit à spéculer et il acheva de se ruiner complètement.
Pourvu qu'elle ne cherche pas à nous emprunter de l'argent, dit ma mère.
Il est probable, au contraire, qu'elle le cherche, fit tranquillement mon père.
Parle-t-elle le français ?
Très mal.
Du reste, cela importe peu. Tu m'as dit, je crois, que tu as aussi invité sa fille. On m'a assuré que c'était une jeune fille charmante et instruite.
Dans ce cas, elle ne ressemble pas à sa mère.
Ni à son père non plus, répondit mon père. Celui-là était instruit aussi, mais sot.
Ma mère soupira et resta rêveuse. Mon père se tut. Je me sentais très mal à l'aise pendant cette conversation. Après le dîner, j'allai dans le jardin, mais sans fusil. Je me promis d'abord de ne point me rapprocher du jardin des Zazikin. Mais une force irrésistible m'entraîna de ce côté, et ce ne fut pas en vain. À peine me trouvais-je auprès de la haie que j'aperçus Zinaïda. Cette fois, elle était seule. Elle tenait entre ses mains un livre et suivait lentement le sentier. Elle ne me remarquait pas. Je faillis la laisser passer outre, mais tout à coup je me ravisais et je tout sautais. Elle se retourna, mais ne s'arrêta pas, et écartant de sa main le large ruban bleu de son chapeau de paille rond, elle me regarda, sourit doucement, et de nouveau fixa ses yeux sur le livre. J'ôtai ma casquette, et après quelques piétinements sur place, je m'éloignai, le cœur gros.
« Que suis-je pour elle ? » pensais-je.
Dieu sait pourquoi, en français. Un pas que je reconnus se fit entendre derrière moi. Je me retournai. Mon père, de sa démarche rapide et légère, s'approcha de moi.
« C'est la jeune princesse ? » me demanda-t-il.
« Oui, papa. »
« Tu la connais donc ? » ?»«
Je l'ai vue ce matin chez sa mère. » Mon père s'arrêta, et faisant un tour sur ses talons, il s'en retourna. Quand il fut arrivé à l'endroit où passait Zinaïda, il la salua poliment. Elle, également, le salua, non sans quelque étonnement sur le visage, et elle abaissa le livre. Je voyais qu'elle suivait mon père des yeux. Toujours très coquet, quoique très simple dans sa mise, mon père avait une manière d'être à lui pleine d'élégance. Mais jamais plus qu'en ce moment, sa silhouette ne m'avait semblé élancée, son chapeau gris posé d'une façon plus gracieuse sur ses cheveux bouclés, à peine un peu plus rare qu'autrefois. J'allais me diriger vers Zinaïda, mais elle ne me remarqua même pas, leva de nouveau son livre et s'éloigna. Chapitre 6. Toute la soirée et le lendemain matin, je restais dans une sorte de torpeur triste. Il me souvient que j'essayais de travailler, et je me mis à mon Kaïdanov. C'était en vain que les larges lignes et les pages du célèbre traité passaient devant mes yeux. 10 fois de suite, je lus ces mots. Jules César se distinguait par une bravoure guerrière. Je ne comprenais rien, et je jetai le livre. Avant le dîner, je me pommadai de nouveau, et de nouveau, je remis mon veston et ma cravate. «
Pourquoi ce costume ? » demanda ma mère.
Tu n'es pas encore un étudiant, et Dieu sait même si tu passeras tes examens. Et puis, y a-t-il si longtemps qu'on t'a fait une nouvelle veste? Il faut bien que tu la portes.
« Il y aura des invités !» murmurai-je presque avec désespoir.
« Quelle sottise ! Ce ne sont pas là des invités !» Il fallait se soumettre. Je remis ma veste, mais je n'ôtais pas ma cravate. La princesse et sa fille arrivèrent une demi-heure avant le dîner. La mère, par-dessus la robe verte que je connaissais déjà, avait jeté un châle jaune et mis sur sa tête un bonnet à l'ancienne mode avec des rubans couleur de feu. Elle se mit aussitôt à parler de ses billets souscrits. Génie, se lamenta sur sa pauvreté, pleurnicha, et se montra tout à fait sans façon. Elle prisait aussi bruyamment son tabac. Elle s'agitait sur son siège aussi librement que chez elle. Elle ne semblait même pas se douter qu'elle était une princesse. En revanche, Zinaïda se tenait très grave, presque hautaine, comme une vraie princesse. Sur son visage apparaissait une morgue et une immobilité froide, au point que je ne la reconnaissais pas. Je ne retrouvais ni ses regards, ni son sourire, quoique sous ce nouvel aspect elle me parut aussi belle. Elle était vêtue d'une légère robe de barège avec des rayures bleues de ciel. Ses cheveux tombaient en longues boucles de chaque côté de ses joues à la mode anglaise. Cette coiffure allait très bien à l'expression froide de son visage. Mon père était assis auprès d'elle pendant le dîner et, avec la politesse calme et gracieuse qui lui était propre, il s'occupait de sa voisine. Parfois il la regardait, elle lui jetait de temps à autre un regard, mais si étrange, on aurait presque dit haineux. La conversation avait lieu en français. Je me souviens que ce qui me frappa, ce fut la pureté de la prononciation de Zinaïda. La princesse ne se gênait pas plus pendant le dîner qu'avant, mangeait beaucoup et louait les mets. Sa présence pesait visiblement à ma mère, qui lui répondait avec une sorte de dédain attristé. Mon père fronçait parfois le sourcil. Zinaïda ne plut pas non plus à ma mère. « Comme elle est orgueilleuse !» dit-elle de la jeune fille le lendemain.
« Et on se demande de quoi elle peut être si fière avec sa mine de grisette. »«
Tu n'as jamais vu probablement de grisette !» lui fit remarquer mon père.
« Grâce à Dieu, non !»«
Grâce à Dieu, certainement, alors comment peux-tu en parler ?»
Zinaïda ne fit aucune attention à moi. Peu après le dîner, la princesse nous fit ses adieux.
« Je compte donc sur votre protection, Maria Nikolaevna et Petro Vassilievitch, » dit-elle d'un ton traînant à mes parents.
« Que faire ? J'ai eu mon temps, mais il est passé. Ainsi me voilà, moi, une excellence !» ajouta-t-elle avec un rire forcé. « À quoi cela m'avancera-t-il, quand il n'y a pas de quoi manger ?»
Mon père la salua respectueusement et la conduisit jusqu'à la porte du vestibule. Je me tenais également là, dans ma courte veste, et je regardais par terre, comme un condamné à mort. La manière d'être de Zinaïda à mon égard m'avait complètement tué. Mais quel ne fut pas mon étonnement quand, en passant auprès de moi, elle me dit vivement, à voix basse et avec la même expression de tendresse que je lui connaissais déjà.
« Venez chez nous à 8 heures du soir, entendez-vous? Venez absolument !»
Mes bras s'écartèrent d'étonnement, mais déjà elle était sortie, en couvrant sa tête d'un fichu blanc. Chapitre 7. Juste à 8 heures du soir, vêtue de mon veston et les cheveux en coque sur le front, j'entrai dans le vestibule du pavillon qu'habitait la princesse. Le vieux domestique me regarda d'un air morne et ne montra pas un grand empressement à se lever du banc. On entendait dans le salon des voix joyeuses. J'ouvris la porte et me reculai de stupeur. Au milieu de la chambre, Zinaïda se tenait debout sur une chaise et avait à la main un chapeau d'homme. Autour de la chaise se pressaient cinq jeunes gens. Ils cherchaient à plonger leurs bras dans le chapeau, tandis qu'elle le soulevait en l'agitant avec force. En m'apercevant, elle me cria « Attendez, attendez, un nouveau venu, il faut lui donner aussi un billet !» Et, sautant prestement de la chaise, elle me prit par la manche de mon veston. « Venez donc » fit-elle. « Pourquoi restez-vous là ? Messieurs, permettez-moi de vous présenter M. Valdemar, le fils de notre voisin. » Et me désignant à tour de rôle chacun de ses invités. « Le comte Malevski, le docteur Louchin, le poète Maïdanov, le capitaine en retraite Niermatski et Belovzorov, le hussard que vous avez déjà vu. Je vous prie de sympathiser et de vous entendre. » J'étais à ce point intimidée que je ne saluais même personne. Dans le docteur Louchin, je reconnus le même monsieur Brun qui m'avait si impitoyablement fait honte au jardin. Les autres m'étaient inconnus. « Comte, reprit Zinaïda, écrivez donc le nom de monsieur Valdemar sur un billet. »
« Mais c'est injuste !»
répondit avec un léger accent polonais le comte Malevski. Un très beau brun, élégamment vêtu, aux yeux noirs expressifs, au nez blanc effilé, avec de minces moustaches au-dessus d'une toute petite bouche.
« Monsieur n'a pas joué avec nous au fond !»« Injuste !»
répétèrent Belovzorov et le monsieur qu'on m'avait présenté comme un capitaine en retraite. Un homme d'une quarantaine d'années, marqué jusqu'à la laideur de petites véroles, frisé comme un arabe, un peu voûté, avec des jambes cagneuses, vêtu d'un uniforme militaire déboutonné et sans épaulettes.
« Faites le billet, vous dit-on,
répéta la jeune fille.
« Que signifie cette désobéissance? Monsieur Valdemar se trouve parmi nous pour la première fois et il n'y a pas de loi pour lui aujourd'hui. Et pas de grognement. Écrivez, je le veux. »
Le comte haussa les épaules, mais baissa la tête d'un air de soumission, prit la plume dans sa main blanche ornée de bagues, arracha un morceau de papier et se mit à écrire.
« Permettez au moins qu'on explique à monsieur Valdemar de quoi il s'agit, »
fit Louchine d'une voix railleuse, « car il semble tout à fait désorienté.
Voyez-vous, jeune homme, nous jouons au fin.
La princesse doit payer une amende et celui qui tirera le bon billet aura le droit de lui baiser la main. Comprenez-vous ce que je vous dis ?» Je ne fis que le regarder et je continuai à rester comme abasourdi. Tandis que la princesse remontait de nouveau sur la chaise et de nouveau se mettait à agiter le chapeau. Tous se rendirent vers elle et moi après les autres.
« Maïdanov, dit la jeune fille à un grand jeune homme au visage maigre, aux petits yeux malades et portant des cheveux noirs très longs.
C'était le poète.
« Comme poète, vous devez être généreux. Cédez votre billet à M. Valdemar pour qu'il ait deux chances au lieu d'une. »
Mais Maïdanov hocha négativement la tête et, d'un coup, rejeta en arrière ses longs cheveux. Après les autres, je mis ma main dans le chapeau, je pris un billet que je déployai.
« Seigneur, qu'advint-il de moi quand je vis écrit ce mot « le baiser »?»« Le baiser !» m'écriai-je malgré moi. « Bravo, il a gagné !» cria à son tour la princesse. « J'en suis bien aise !»
Elle descendit de la chaise et me regarda dans les yeux d'un air si doux et si serein que mon cœur en défaillit de joie.
« Et vous, êtes-vous content ?» me demanda-t-elle.
« Moi, je le suis, » murmurai-je.
« Vendez-moi votre billet !»
fit tout à coup au-dessus de mon oreille Belovzorov. « Je vous donne 100 roubles. » Je répondis au hasard, d'un regard si indigné que Zinaïda se mit à frapper des mains tandis que Louchine s'écria « Bravo !» Mais, continua-t-il, comme maître des cérémonies, je suis obligé de veiller à l'exécution de toutes les règles. Monsieur Malnemar, mettez genoux en terre c'est la règle chez nous. »
Zinaïda s'arrêta devant moi, en penchant légèrement la tête de côté, comme si elle voulait mieux m'examiner, et me tendit la main d'un air grave. Ma vue se troubla. Je voulais me baisser sur un genou, je tombai sur les deux, et touchai si maladroitement le bout des doigts de Zinaïda que je m'écorchai légèrement le bout du nez au choc de son ongle.
« Voilà qui est bien !» s'écria Louchine en m'aidant à me relever.
Le jeu des fins continua. Zinaïda me fit asseoir auprès d'elle. Quelle sorte d'amende ne trouvait-elle pas? Il lui arrivait, entre autres, de représenter une statue et elle se choisissait comme piédestal, le repoussant Niermatski, lui ordonnant de se baisser en présentant son dos et en cachant son visage dans sa poitrine. Les rires ne cessaient pas un instant. Moi, garçon élevé dans la solitude et dans la gravité, grandi dans la maison ordonnée d'une famille nobiliaire, tout ce bruit, ce brouhaha, cette joie sans façon d'écoliers en révolte, cette intimité insolite avec des jeunes gens inconnus, me montait à la tête. J'étais tout simplement enivré comme par les vapeurs du vin. Je me mis à rire, à bavarder plus haut que les autres, avec tant d'entrain que la vieille princesse elle-même, qui était assise dans la pièce voisine avec quelques petits clercs d'avoués appelés pour une consultation, sortit pour me contempler. Mais je me sentais à tel point heureux que, suivant notre manière de dire, je ne soufflais pas dans mes moustaches et ne faisais attention ni aux railleries ni aux regards de travers de personne. Zinaïda continuait à me témoigner sa préférence et ne me laissait pas m'éloigner. Dans une amande, il m'arriva d'être assis à côté d'elle, tous deux recouverts du même foulard de soie. Je devais lui dire mon secret. Je me souviens que nos deux têtes se trouvèrent tout à coup dans une demi-obscurité étouffante et odorante, et que dans cette obscurité, ses yeux brillaient doucement très près de moi, et ses lèvres entr'ouvertes avaient une respiration chaude. Je voyais ses dents, et le bout de ses cheveux me brûlait et me chatouillait. Je ne disais rien. Elle souriait d'un air mystérieux et malicieux. Enfin, elle murmura « Eh bien, quoi ?» Mais moi, je ne fis que rougir, rire, et, osant à peine respirer, je détournai la tête. Les fans finirent par fatiguer. Nous nous mîmes à jouer au petit cordon. Mon Dieu, quel transport je ressentis quand, distrait du jeu, je reçus d'elle un coup fort et sec sur les doigts. Et quand, après, j'essayais de faire exprès le distrait, elle m'agaçait et ne touchait plus mes mains, que j'avais beau mettre en avant. Et là ne se bornèrent pas tous les amusements de cette soirée. On joua du piano, et l'on chanta, et l'on dansa, et l'on représenta un camp de tziganes. On travestit Niermatski en ours, et on lui fit boire de l'eau salée. Le comte Malevski nous fit toutes sortes de tours de cartes, et après avoir battu un jeu, finit par composer un whist où il avait tous les atouts pour lui. Sur quoi Louchine eut l'honneur de le féliciter. Maïdanov nous déclama des extraits de son poème, L'Assassin. La chose se passait dans le temps le plus ardent du romantisme. Poème qu'il avait l'intention de publier, revêtu d'une couverture noire avec un titre « Couleur de sang ». On vola le chapeau du clerc d'avoué sur ses genoux et on le força en guise de rançon à danser le kazatchok. On affubla le vieux Bonifati d'un bonnet de femme et la jeune princesse se mit un chapeau d'homme. Bref, mille autres choses à n'en plus finir de les énumérer. Seul Belovzorov se tenait la plupart du temps dans un coin, l'air morne et fâché. Parfois ses yeux s'injectaient de sang. Il devenait pourpre et semblait prêt à se jeter sur nous pour nous disperser à droite et à gauche comme des éclats. Mais Zinaïda n'avait qu'à tourner le regard de son côté, le menacer du doigt, et tout aussitôt il se blottissait dans son coin.
Enfin, nous étions à bout de force. La vieille princesse elle-même, toute gaillarde qu'elle était, suivant sa propre expression, aucun sabbat ne pouvait la troubler. Elle commençait cependant à ressentir aussi la fatigue et parlait de repos. À minuit, on servit le souper composé d'un vieux morceau de fromage sec et de quelques pâtés froids de jambon haché qui me semblèrent plus délicieux que n'importe quelle fine pâtisserie. Il n'y avait qu'une seule bouteille au goulot bombé, et le vin qu'elle contenait, d'une couleur sombre, étrange, conservait l'odeur de la drogue quelconque qui avait servi à le colorer. D'ailleurs, personne n'en but. Fatigué, heureux jusqu'à l'épuisement, je sortis du pavillon. En nous séparant, Zinaïda me serra fortement la main et de nouveau sourit d'un air énigmatique. L'air de la nuit souffla pesamment et avec fraîcheur sur mon visage échauffé. Il semblait qu'un orage se préparait. Les nuages noirs grandissaient et rampaient sous le ciel, avec des changements incessants dans leurs contours vaporeux. Une brise fiévreuse tressaillait dans le sombre feuillage des arbres, et quelque part, au loin, au-delà de l'horizon, grondait comme en lui-même un tonnerre menaçant et sourd. Je rentrais dans la maison par l'escalier de service et je me glissais dans ma chambre. Mon diatka dormait par terre et je devais enjamber par-dessus lui. Il se réveilla et en m'apercevant, il me dit que ma mère était de nouveau fâchée contre moi et voulait m'envoyer chercher. Mais mon père l'avait retenu. J'avais l'habitude de n'aller jamais me coucher sans souhaiter bonne nuit à ma mère en lui demandant sa bénédiction. Mais ce soir-là, impossible. Je dis à mon diatka que je me déshabillerais et me coucherais seule, et j'éteignis la bougie. Mais je ne me déshabillais pas et je ne me couchais pas. Je m'assis sur une chaise et longtemps je restais comme dans un enchantement. Ce que je ressentais était si nouveau et si doux. J'étais sans mouvement. À peine regardais-je autour de moi. Je respirais lentement et seulement de temps à autre. Tantôt je riais au souvenir, tantôt j'éprouvais un froid intérieur à la pensée que j'aimais et que cet amour tant attendu, voilà ce qu'il était. Le visage de Zinaïda flottait doucement devant moi dans l'obscurité. Il flottait et ne disparaissait pas. Ses lèvres avaient toujours leur sourire énigmatique. Ses yeux me regardaient un peu de côté, d'un air à la fois interrogateur, rêveur et tendre, comme au moment où je m'étais séparée d'elle. Enfin je me levai. Je m'approchai de mon lit sur la pointe des pieds et doucement, sans me déshabiller, je posai ma tête sur l'oreiller, comme si je craignais de déranger, par un mouvement brusque, tout ce dont mon âme était remplie. Je me couchais, mais je ne fermais pas mes yeux. Bientôt, je remarquai que dans ma chambre, une lumière projetait des reflets. Je me soulevai et regardai la fenêtre. Son châssis ressortait sur la lueur vaguement blanchâtre et mystérieuse des vitres. L'orage, pensai-je. Et en effet, c'était l'orage, mais il passait au loin, et l'on n'entendait même pas le tonnerre. Les éclairs seuls sillonnaient le ciel d'une lueur longue et blafarde qui n'éclatait pas, mais plutôt tressautait et se débattait comme l'aile d'un oiseau mourant. Je me levai, je m'approchai de la fenêtre, et je restai là jusqu'au matin. Les éclairs ne cessèrent pas un instant. C'était une de ces nuits que le peuple russe appelle la nuit des moineaux. Je regardai la plaine sablonneuse et muette, la sombre masse du jardin Neskoutchny, les façades jaunâtres des bâtiments lointains, qui semblaient eux aussi tressaillir sous l'étincelle de chaque faible éclair. Je regardais et je ne pouvais pas m'arracher à ce spectacle. Ces éclairs muets, ces lueurs retenues, semblait répondre aux élancements silencieux et secrets qui agitaient aussi mon âme. Le jour commençait à poindre, l'aube apparaissait avec des taches rouges. À l'approche du soleil, les éclairs pâlissaient et diminuaient de plus en plus. Ils tremblaient plus rarement et s'évanouirent enfin, noyés dans la lumière saine et nette du jour revenu. En moi aussi, les éclairs disparurent. Je sentis une grande fatigue et un grand calme, mais l'image de Zinaïda continuait à s'agiter en triomphant dans mon âme. Seulement, cette image elle-même semblait aussi tranquillisée. Comme un cygne qui s'envole des herbes marécageuses, elle se détachait des autres silhouettes disgracieuses qui l'entouraient. Et moi, en m'endormant, je me penchai vers elle pour la dernière fois dans une adoration confiante d'adieu. Ô doux sentiment, tendre son, la beauté et la paix d'une âme touchée, la joie fondante des premiers attendrissements de l'amour. Où êtes-vous? Où êtes-vous?